Avant de le faire, je voudrais qu'on puisse présenter encore ces moments au Seigneur. Vous voulez bien ? Seigneur, nous te bénissons, te rendons grâce. C'est vrai, Seigneur, pour nous, c'est un immense privilège de nous retrouver dans la communion fraternelle. Seigneur, de pouvoir chanter, de pouvoir entendre, Seigneur, la louange des uns et des autres, les dons spirituels, quelle grâce. Mais Seigneur, nous avons vraiment besoin aussi, Seigneur, d'être enseignés par ta parole, par les Écritures. Seigneur, elle est pleinement inspirée, cette parole. Et nous avons besoin, Seigneur, de la sonder. Nous avons besoin même de nous laisser sonder par elle. D'ailleurs, tu dis, Seigneur, dans ce psaume 119 et au verset 105, « Ta parole est une lampe sur mon sentier, une lumière sur mon sentier. » Alléluia. Alors, Seigneur, nous voulons, Seigneur, laisser ta parole nous éclairer. Je te prie, Seigneur, afin que si un frère et une sœur avaient reçu une autre lumière, tu nous dis que tu es la véritable lumière. Si tu nous dis que tu es la véritable, ça veut dire qu'il y a des lumières qui ne sont pas véritables. Alors, Seigneur, mon Dieu, que ta lumière, ta parole, Seigneur, éclipse toute fausse lumière, Seigneur, tout faux raisonnement, Seigneur, au nom précieux de Jésus. Et tu le fais avec sagesse, tu le fais avec amour, tu le fais même avec tendresse, parce que tu nous aimes. Seigneur, à toi toute la gloire, dans le nom de Jésus. Amen. 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 Je voudrais lire avec vous un texte qui se trouve, on va lire plusieurs textes, mais notre texte de départ se trouve dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 3e. Au chapitre 3e de l'Épître aux Hébreux, et à partir du verset 13. À partir du verset 13, et nous allons lire simplement deux versets. Voici ce qui nous est dit. Épître aux Hébreux, chapitre 3, verset 13. Il y dit ceci. « Mais exhortez-vous les uns les autres, chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. » Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Amen. Gloire à Dieu. Vous avez remarqué dans ce texte combien la notion du temps est importante. Nous sommes sauvés, notre nom est inscrit dans le livre de vie, depuis le jour où nous avons accepté Jésus pour sauveur. Alléluia. Depuis le jour où nous avons accepté Jésus, nos péchés ont été effacés, nous sommes devenus des enfants de Dieu et nous avons pour fin la vie éternelle. Alléluia. Mais cependant, nous sommes déjà sauvés, mais nous ne sommes pas encore dans le ciel. Et c'est pour cela que l'Écriture nous invite à nous exhorter les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui. Parce que aussi longtemps qu'on est sur cette terre, chaque jour est quand même un combat. Un combat, mes frères et sœurs. Et j'aimerais vous dire que la vie avec le Seigneur, c'est une vie comme un chemin de pétales de rose où il n'y a aucun problème ou aucune difficulté comme un film à l'eau de rose de M6. Hein, vous voyez ? C'est actuel, ça. Mais non, la vie chrétienne, eh bien, c'est une vie qui rencontre de nombreux obstacles, de nombreuses difficultés, à commencer par les obstacles qui sont dans notre propre nature. Avant de chercher les problèmes chez les autres, on découvre qu'on en a pas mal déjà en nous-mêmes, n'est-ce pas ? Et parfois, ce sont les plus redoutables. Mais nous voulons comprendre que l'Écriture nous dit « Exhortez-vous ». Et j'admire la sagesse des Écritures qui nous dit « Exhortez-vous ». Il dit pas « Je vous exhorte ». Il dit « Exhortez-vous ». Ça veut dire que, eh bien, c'est aujourd'hui, c'est moi qui t'exhorte, demain ça sera toi, aujourd'hui c'est ton frère, ta sœur qui t'encourage, mais demain ça sera lui qui aura besoin de tes encouragements, alléluia, nous nous exhortons les uns les autres, eh bien, à marcher fidèlement dans les voies du Seigneur, amen. Et le mot que je voudrais retenir avec vous, eh bien, qui va retenir notre attention ce matin, c'est ce mot participant. Vous avez vu au verset 14, il nous est dit « Car nous sommes devenus participants de Christ ». Participants de Christ. C'est un mot que l'on retrouve à plusieurs reprises et sur lequel on va s'appuyer pour notre méditation de ce matin. On le retrouve à plusieurs reprises dans l'Écriture. On s'aperçoit qu'on peut être participant de la gloire qui nous est réservé. On s'aperçoit qu'on est aussi participant de la nature divine. On participe également à une nouvelle alliance, voyez. Et ici, on est participant de Christ lui-même. Donc, on est participant et en faisant quelques recherches, eh bien, dans la parole de Dieu, je notais que ce mot provient de deux mots grecs qui signifient alors être associé, être en communion, être joint. Alors, on l'a traduit par un partenaire, un associé, un compagnon, celui qui partage toutes choses, ou encore quelqu'un que l'on traite à égalité, voyez, qui est participant, quelqu'un que l'on traite à égalité. C'est un peu cela lorsque nous sommes en communion avec le Seigneur, le pain et le vin. Jésus s'est mis à notre niveau. Alléluia. Vous savez, dans une certaine religion qui est prédominante dans ce quartier, l'expression de la foi se manifeste notamment dans la prière. Et nous respectons bien sûr la piété de chacun. Mais les gestes sont importants. En ce qui nous concerne, la Sainte Cène, qui est l'expression de notre foi en Jésus-Christ, nous montre que nous sommes tous au même rang, au même niveau. Oui ou non ? Il n'y a pas de pasteur ou qui tienne, on est tous sauvés de la même manière. Alléluia. Et on est les uns, nous sommes les uns au service des autres. Alléluia. Et le Seigneur s'est mis au même rang que ses disciples. Il ne s'est pas mis sur une estrade ou quelque chose qui le rende supérieur au moment où il a pris le pain et le vin. Même l'Écriture nous dit qu'il s'est abaissé, il a lavé les pieds de ses disciples. Vous voyez ? Donc, on est dans un niveau d'égalité. Et c'est ça la grâce de Dieu. Le Seigneur nous a relevés. Amen, alléluia ! Il s'est abaissé jusqu'à nous. Quelle grâce ! Quelle grâce ! Dans la religion prépondérante qui est dans ce quartier dont je parlais, eh bien, voyons que l'expression de la foi se manifeste au travers d'un geste assez visible dans la prière, une prosternation, voyez, et où la personne semble comme écrasée par la présence de Dieu. C'est complètement différent, hein. Je suis pas digne d'être dans ta présence, je suis pas digne de lever même les yeux vers toi, voyez, c'est ça. On peut dire que c'est un langage qui se comprend, qui s'apprécie. Mais c'est un langage qui n'a pas rencontré Jésus comme Sauveur et Seigneur. Parce que lorsqu'on l'a rencontré, on dit, mais quand je tourne les regards vers toi, je suis rayonnant de joie. Alléluia, amen. Je n'ai pas peur de ce Dieu grand qui a créé l'univers, le ciel et la terre, mais il est mon Père. Alléluia, amen. Gloire à Dieu. Amen. Et mes frères et sœurs, c'est de cela dont nous sommes participants. Alléluia. Nous sommes associés au Seigneur, associés à Dieu. Nous sommes comme, eh bien, compagnons, partenaires. Alléluia. Et la parole de Dieu, eh bien, utilise ces termes à plusieurs reprises pour qualifier notre identité et notre relation avec le Seigneur Jésus. Et c'est pour cela que je voudrais que nous puissions retenir ces mots afin que nous puissions, eh bien, nous ancrer dans ce que le Seigneur a fait pour nous, dans ce que le Seigneur a fait de nous, afin que nous ne nous laissions pas, eh bien, ravir le prix de notre course par quelque idée fumeuse qui viendrait de je ne sais où, mais que nous soyons toujours attachés à l'Écriture, à ce que le Seigneur nous dit. Alléluia. Et c'est notre sûreté, c'est notre garant. À lui soit la gloire. Alors la première des choses, on va voir, eh bien, que nous sommes participants de Christ. Nous allons voir ensuite que nous sommes participants de la nature divine. Nous verrons également que nous sommes participants de la gloire qui doit être manifestée, et nous terminerons en disant, eh bien, que nous sommes participants, eh bien, au présent. Le Seigneur veut nous voir participer, eh bien, aujourd'hui. Participant de Christ, eh bien, c'est une exhortation en même temps qu'un avertissement, mes frères et sœurs. L'apôtre Pierre dira, mais j'éveille votre conscience par des avertissements. Et nous avons besoin d'être avertis. Quelqu'un a dit, un homme averti en vaut deux. Mais alors un chrétien averti, il en vaut 10 000. Qu'est-ce que vous en pensez ? Eh oui, un chrétien averti. Et ici, l'Écriture nous dit ceci, eh bien que exhortez-vous chaque jour. Et il nous est dit, nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance, eh bien, qui était la nôtre, eh bien, au commencement. Nous avons besoin de retenir fermement cette assurance qui est la nôtre. Et mes frères et sœurs, nous sommes dans un temps où, c'est vrai, c'est assez chaotique. On a des avis divers et variés sur toutes sortes de situations aujourd'hui, oui ou non ? et la parole de la personne qui n'a aucun diplôme aujourd'hui vaut la parole d'un scientifique reconnu, etc. Donc on s'aperçoit que tout est bouleversé. Et ça peut générer dans le cœur de plusieurs une espèce de sentiment d'incertitude. Mais le Seigneur nous avertit en nous disant non, ne perdez pas votre assurance. Ne perds pas ton assurance, mon frère, ma sœur. Cette assurance, eh bien, elle te permet de t'approcher du trône de la grâce. Alléluia. Qu'est-ce que c'est notre assurance ? Notre assurance, Hébreux chapitre 11, verset 1, « La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. » Alléluia. L'assurance, c'est ta foi. Une foi assurée, une foi qui se confie dans l'œuvre de Christ. Alléluia. Et parce que Jésus a tout accompli à la croix, je crois, comme je le disais tout à l'heure, au travers de la Sainte Cène, que je peux m'approcher du Seigneur en toute assurance parce qu'il est capable de me secourir dans tous mes besoins. Alléluia. Et je voudrais te dire ceci, mon frère, ma soeur, est-ce que tu t'appuies sur Dieu ? Est-ce que, au lieu de chercher des avis, des conseils ici ou là, est-ce que ta référence, c'est la parole du Seigneur ? Si c'est l'assurance de ta vie, cette parole, mais tu vas trouver la paix, alléluia ! Tu vas générer la paix dans ton cœur, la confiance, et autour de toi, tu vas la manifester, alléluia ! Cette assurance, de nous approcher du trône de la grâce, cette assurance, regardez Hébreux 10, 35, ce qui nous est dit, parce que c'est un mot qui apparaît aussi souvent, on reste à participant, mais on parle aussi de cette assurance, il nous est dit, n'abandonnez pas votre assurance, tiens, on peut abandonner son assurance. Et pourtant, il nous est dit, il y a une grande récompense, une grande rémunération. Vous voyez ? Il nous est parlé Hébreux chapitre 13 et verset 6. Eh bien, c'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide, que peut me faire un homme ? Cette assurance, elle est précieuse. Donc, un, pour chercher la face de Dieu et le secours dans tous nos besoins, pour traverser toutes les épreuves, n'avoir aucune crainte de ce que les hommes peuvent produire dans ce monde, et rester ferme, pourvu que nous ne perdions pas notre assurance. Alléluia ! Et mon frère, ma sœur, eh bien, cet avertissement, il est pour nous, parce que les chrétiens à qui était adressée cette épître aux Hébreux, étaient des chrétiens qui étaient sur le point de reculer. Ils commencent à découvrir que l'on peut être persécuté et avoir des épreuves lorsqu'on est chrétien. Voyez ? Et ça leur fait peur. Ça leur fait peur. Et au bout d'un moment, ils se disent, mais puisque c'était avant de rencontrer Jésus, ils étaient juifs, donc ils étaient dans l'expression du judaïsme. Et comme le judaïsme était une religion autorisée dans l'Empire romain, ils disaient, ben voilà, on va redevenir juif. De toute façon, Ancien Testament, Nouveau Testament, c'est le même Dieu. Mais là, au moins, on ne sera pas persécuté. Oui, mais enfin, tu reviens à l'ancienne alliance, tu reviens à des règles et des prescriptions par lesquelles tu dis « Je suis sauvé parce que je fais ceci, je fais cela », mais enfin, tu oublies que tu es un pécheur. Tu oublies que Christ est mort pour toi. Mais, et l'Écriture est extrêmement sévère, mais si tu renies ce sang qui a été versé pour toi, il ne reste aucun moyen de salut. Je voudrais m'adresser peut-être à quelqu'un qui a abandonné le Seigneur il y a quelques années et qui est revenu à Dieu en disant, mais est-ce que c'est pour moi, parce que est-ce que j'ai foulé au pied de l'alliance ? Attendez, ça n'a rien à voir. Je crois qu'il y a au milieu de nous, et j'en fais partie, des fils prodigues, mais qui ont lâché la main de Dieu pendant un temps, que le Seigneur a ramené par sa grâce à lui, mais il n'y avait pas dans la pensée le fait de dire un débat théologique par rapport à la personne de Jésus. C'était simplement la séduction du péché, comme nous l'avons vu. Mais là, il y a autre chose. Il y a un but même théologique, doctrinal, de dire « je peux être sauvé sans Jésus-Christ ». Mais ça, c'est où tu vas, tu cours à ta perte. Et l'Écriture nous dit « avertissement solennel ». Mes frères et sœurs, nous avons besoin de rester attachés à la personne de Jésus, parce que l'Écriture nous dit, et l'exhortation elle est là, « nous sommes participants de Christ ». Alléluia ! Je le répète dans ce que je vous ai dit tout à l'heure, il y a un attachement, un associé. Dieu nous traite d'égal à égal. Ça me fait penser à Moïse qui parlait à l'Éternel comme un homme parle avec son ami. Alléluia. Et mes frères et sœurs, ce qui arrivait de temps en temps pour l'une des grandes figures de l'ancienne alliance, eh bien, c'est quelque chose de tout à fait naturel pour nous aujourd'hui. Quelle joie de se réveiller le matin et de dire « Le Seigneur va me parler par sa parole. Le Seigneur va me remplir de son Saint-Esprit. Je vais parler en langue, je vais chanter des cantiques. Le Seigneur me remplit. Alléluia !» Mais ça, les gens de l'Ancienne Alliance, ils ne l'avaient pas, ça. Et nous, nous l'avons, amen, gloire au Seigneur. Et l'Écriture nous dit eh bien, que nous sommes participants. On peut le lire, ça, regardez. Romains 11, 17, ce texte, on ne l'avait pas pris, mais je vais le prendre. Romains 11 et le verset 17. Est-ce que vous aimez, vous aimez faire du jardinage, tout ça? Ben moi, je n'aime pas. Jocelyne. Et ma femme, elle aime bien, mais elle fait tout crever. Voilà. Ouais, c'est comme ça, écoutez. Alors, mais quand même, alors, mais je me suis renseigné quand même. Romains 11, 17, il nous est dit ceci. Si quelques-unes des branches ont été retranchées, si toi qui n'étais qui était un olivier sauvage, tu as été greffé, hanté, hein, greffé, à leur place et rendu participant de la racine et de la graisse, c'est-à-dire de la sève, de l'olivier, ne te glorifie pas aux dépens de ses branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui te portes, c'est la racine, mais que c'est les racines qui te portent. Tu diras donc que des branches ont été retranchées, afin que je sois greffé, c'est vrai. Elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité, et toi tu subsistes par la foi. Alléluia. Cet olivier, c'est le peuple de Dieu qui doit servir de témoignage aux nations. Ce n'est pas une religion qui nous sauve, la loi. Et certains, lorsque Jésus est venu, l'ont rejeté. Et bien, eux aussi ont été rejetés. Mais les nations ont été greffées sur le plan initial de Dieu. Alléluia. Amen. Et ce qui n'était pas un peuple est devenu le peuple de Dieu. Vous savez, quand on fait une greffe, ce qui se passe? Alors, je me suis renseigné pour vous. Hein. On fait une entaille dans le tronc de l'arbre, et la branche, on lui fait aussi une entaille et on la plante à l'intérieur, on la greffe dedans, et la greffe elle prend, voyez. Et il y a une autre sève et cette nouvelle branche va porter des fruits excellents, voyez. On veut comprendre que nous avons été réconciliés avec Dieu, mais il y a eu un prix, il y a eu une blessure, il y a eu une entaille qui a été faite dans la personne du Seigneur, afin que nous soyons greffés en lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Et nous aussi, le Seigneur nous a taillés, afin que ce qui est impur, afin que ce qui ne doit pas être dans sa présence soit ôté. Alléluia. Et nous sommes devenus de nouvelles créatures. Nous sommes participants de Christ, mes frères et sœurs, participants du dessein de Dieu, participants du plan de Dieu qui avait commencé bien avant que eh bien, nous soyons sur cette terre. Et l'Écriture nous dit, eh bien, là où le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé. Quelle grâce, quelle puissance, quel honneur, quel bénéfice. Parce que maintenant, nous pouvons porter une vie qui n'est pas la nôtre, mais qui est la vie de Dieu en nous. Alléluia. Mais ça me rend fort. Alléluia. Mais mes frères et sœurs, on s'aperçoit dans la Bible que Dieu nous présente des hommes d'une manière, il ne les glorifie pas. Vous savez, c'est dans la religion qu'on parle de Saint-Pierre, de Saint-Jacques et de Saint-je-sais-pas-qui. Mais dans la Bible, on nous parle de Pierre, tout simplement. Hein. Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Pierre. Et Pierre, on s'aperçoit que dans l'Écriture, c'est un homme comme nous, un homme. Et quand Jésus le visite avec cette pêche miraculeuse, il dit « Retire-toi de moi, Seigneur, pourquoi ? Parce que je suis un homme pêcheur. » Pas un pêcheur à la ligne. Hein. Quelqu'un qui vit dans le péché. Et Jésus transforme toute sa vie, je te le dis en vérité, eh bien, tu seras un pécheur d'homme. Ne crains pas. Alléluia. Et puis, si je m'attache à Pierre, c'est un homme qui peut être capable du meilleur comme du pire. C'est un homme qui, alors que Jésus le fait marcher sur l'eau, eh bien, il n'est pas attentif au Seigneur, il regarde ailleurs et il coule. Vous vous souvenez, hein, dans la tempête. Et le Seigneur le relève. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il est participant de Christ. Amen. Même si lui l'a oublié, Jésus, lui, ne l'a pas oublié. Même si lui a regardé ailleurs, le Seigneur n'a pas regardé ailleurs. Il est fidèle. Alléluia. Amen. Il a relevé. Mais mes frères et sœurs, ça m'encourage, ça. Alléluia. Parce que moi, je ne suis pas invulnérable, et vous non plus. mais le Seigneur lui l'est. Et moi, je suis participant eh bien, de sa personne, alléluia, en communion avec lui. Et on s'aperçoit même que cet homme, il était faillible. Bon, on ne va pas rappeler toujours le reniement, mais quand même, il a renié 3 fois le maître, mais il a été rétabli par le Seigneur. Amen. Et mon frère, ma sœur, je voudrais te dire ceci. Cesse d'écouter la voix du diable qui perturbe tes pensées et ta foi en repassant sur ton cœur et dans ta tête eh bien, le souvenir de tes échecs. Jésus a tout accompli pour te pardonner, te relever. Alléluia. Amen. Et tu es participant non pas eh bien, d'un échec, non pas d'une défaite, mais tu es participant de la victoire de Jésus-Christ qu'il a accompli à la croix du calvaire. Alléluia. Alors relève-toi. Et l'Écriture nous dit que Pierre eh bien, a été un homme et un sujet qui a été en bénédiction pour toutes celles et ceux eh bien, de sa génération. Parce qu'au travers d'hommes simple et parfois misérable comme l'apôtre Pierre, c'est-à-dire faillible, fragile, faible, eh bien nous découvrons la puissance de Dieu et son amour dans le pardon qu'il octroie, dans le secours, dans le rétablissement que Dieu produit. Alléluia ! Amen ! Amen ! C'est merveilleux d'être participant de Christ. Amen ! Gloire au Seigneur. Alors, participant de Christ, c'est aussi être participant de la nature divine. Regardez, ben justement, on parlait de Pierre. Regardez ce que Pierre dit, ou écoutez plutôt, dans 2 Pierre, au chapitre, dans sa deuxième épître, au chapitre 1er, au verset 4. Pierre, c'est sa dernière épître, il sent qu'il va mourir, les persécutions. On va y revenir dans un instant. Hein. Voilà. Et il dit ceci, comme sa divine puissance, chapitre 1er, 2 Pierre 1, 3, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine. Voilà, c'est les derniers mots. Hein. Être participant de la nature divine, et il développe, avant il annonce, en disant, c'est par la connaissance de Dieu que toutes ces choses se sont produites, mais nous sommes eh bien, participants eh bien, de la nature divine. Alléluia, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on rencontre le Seigneur, lorsqu'on est participant eh bien, de sa personne, le Seigneur nous change et nous transforme, nous sommes nés de nouveau. Alléluia. Et l'Écriture nous dit, 2 Corinthiens chapitre 5 et le verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Et c'est ça qu'il est en train de nous dire. Je suis devenu quelqu'un de nouveau. Je participe maintenant à la nature divine. Il y avait le vieux Pierre et maintenant il y a le nouveau Pierre. Alléluia. Il y avait l'ancienne Geneviève et maintenant il y a la nouvelle Geneviève. Alléluia. Le vieux Péricot et le nouveau Péricot. Amen. Gloire à Dieu. L'ancienne année et la nouvelle année. Alléluia, amen. Le Seigneur fait toutes choses nouvelles. Il n'est pas attaché à notre passé et il change notre nature. Et la nature que nous voyons se développer en nous, c'est l'amour. Parce que Dieu est amour. Alléluia. Et l'amour, c'est partager le meilleur. Et quand je gratte un peu les Écritures et que je m'attache un petit peu à ça, c'est merveilleux parce que l'Écriture, elle nous parle eh bien, de ce que Dieu fait. Je reviens à l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre, vous savez que c'était un leader né, cet homme. C'est un chef d'entreprise. Hein. Et quand vous allez dans Jean au chapitre 21, Jean au chapitre 21, ils vivent tous un moment un peu pénible parce que Jésus a été crucifié. Bon, il leur est apparu, mais on s'aperçoit qu'ils ne sont pas encore bien établis. Hein. Ce n'est pas encore tout à fait stable. Et ils rentrent en Galilée, chez eux. Et là, ils disent, oui, c'est vrai, on a passé des années formidables, on a vu des miracles, le Seigneur nous est apparu. Mais qu'est-ce qu'on va faire de nos vies? Ben, Pierre, il dit, ben, moi, je vais aller pêcher. Hein. Ça veut dire quoi? Je retourne à ma vie d'avant. Et les autres, qu'est-ce qu'ils disent? On va avec toi. Il y a des gens comme ça, c'est des leaders. Vous voyez, quand on les rencontre, on a envie de les suivre. Mais bon, il y a des bons leaders et il y a des mauvais leaders. Et là, c'est un mauvais leader. Parce qu'il va entraîner les autres eh bien, à retourner à une vie de péché, une vie sans Jésus. Vous voyez? Une vie triste, une vie morne. Mais je voudrais te dire ceci. Eh bien, le Seigneur leur est apparu. Et il a été relevé. Alléluia. Et Pierre a été participant d'une nouvelle nature, la nature divine. Non pas une vie triste ou nette, repliée sur soi, mais une vie qui va produire du fruit. Alléluia. Lorsque nous lisons les premiers chapitres des Actes des Apôtres, nous voyons l'apôtre Paul rempli du Saint-Esprit, mais qui va partager le message de l'Évangile à des foules entières pour les amener au salut en Jésus. Il ne va pas dire « c'est que pour moi », mais il va le partager. Mais quand on est rempli du Saint-Esprit, il y a un feu qui boue en nous. On ne peut pas garder ces choses-là pour nous. On est obligé de le dire, alléluia. On est obligé de tenir un Nouveau Testament, de dire « Dieu vous bénisse », alléluia, de parler de Christ autour de nous. Et si vous lisez attentivement dans Actes au chapitre 3, quand il y a ce boiteux, là de naissance, l'Écriture nous dit « j'ai rien à te donner, j'ai pas d'or, j'ai pas d'argent, mais ce que j'ai, je te le donne, alléluia. » Ta nature, elle a été changée, Pierre. Hein, parce qu'avant, ce que tu avais, tu le gardais. Eh oui. Parce qu'il fallait faire des bénéfices et tout ça. Eh oui, mais maintenant ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. Et le prenant par la main, il va le relever. Et cet homme, eh bien, va vivre une bénédiction, un miracle, parce que la nature d'un homme a été changée par Dieu. Alléluia. Et il lui a communiqué cette bénédiction. Et si vous lisez Actes 3 précieusement, enfin attentivement, vous verrez que, eh bien, Pierre... c'est plus celui qui veut être le premier tout seul. Voilà, j'ai tout compris, les autres n'ont rien compris. Non. Pierre avec Jean. Il est avec Jean. Deux à deux, le Seigneur avait dit. Ben, il est avec Jean. Pierre est le boiteux. Il se préoccupe de ce boiteux. Pierre est la foule. Il dit, mais pourquoi vous me regardez, moi, comme si c'était... Non, moi, je suis comme vous. Hein. Mais Jésus m'a sauvé. Et Pierre est Jésus. Et il élève Jésus. Alléluia. Amen. Dites-moi, frères et sœurs, est-ce que... Même si on a rencontré le Seigneur, on n'a pas besoin que le Seigneur change encore notre nature. Qu'est-ce que vous en pensez ? Nous régénère, nous renouvelle. Vous ne croyez pas qu'on a besoin de passer du temps avec le Seigneur ? Que le Seigneur ait de l'influence dans notre vie, qui nous transforme, qui nous change, comme un habit le potier, qui nous transforme même dans notre langage, dans nos relations. Vous savez, parfois, ce qui est terrible, c'est qu'on peut s'installer dans des relations et sans être régénéré, eh bien ça... Vous savez, la Bible nous dit que les mouches mortes infectent l'huile du parfumeur. Eh oui. L'huile parfumée, le parfum à l'époque, hein, c'est bon. Hein. Mais s'il y a une mouche qui tombe là-dedans, et si on ne l'enlève pas tout de suite, elle fermente et ça sent plus bon. Quoi. Et on a besoin d'être régénéré, d'être renouvelé, alléluia. Entre époux, relation parent-enfant, bien sûr. Communion fraternelle, alléluia, qu'il n'y ait pas des mouches mortes. Hein. J'espère qu'il n'y en a pas, hein, des mouches mortes. Mais, et avec le Seigneur encore plus, alléluia. Qu'on puisse dire, mais Seigneur, que je puisse t'aimer comme au premier jour, parce que je voudrais vous dire ceci, mes frères et sœurs, Dieu a un plan pour chacun d'entre nous, c'est que nous soyons en bénédiction les uns envers les autres. Et quand notre nature est transformée, changée, je reviens là-dessus, j'avais un petit conflit personnel pour ce matin, parce que j'avais deux pensées. Enfin, j'avais une pensée et je me demandais comment l'aborder. Et en préparant ce moment, voilà, cette pensée est revenue et c'est le moment où il faut la porter. Le Seigneur veut se servir de nous pour que nous soyons en bénédiction les uns envers les autres. Alléluia. Et quand notre nature est changée et transformée, Dieu ne produit pas dans ta vie... Eh bien, ce changement pour le bénéfice de ta seule personne, pour que tu sois le centre de ton petit univers. Mais c'est pas grave. Mais le Seigneur nous transforme pour que nous soyons des hommes et des femmes qui apportent une bénédiction à un frère, à une sœur, à quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur. Alléluia. On est dans un monde qui a vraiment besoin de la bénédiction de Dieu. Qu'est-ce que vous en pensez ? Amen. Croyez pas que les petits gars dans ce quartier qui sont en train de dealer, ils ont besoin d'être bénis par le Seigneur. Il y en a certains qui ont l'âge de mes enfants, ils passent la nuit dehors en train de dealer, de se faire un petit feu de fortune pour pas avoir froid. Et quand ils rentrent à la maison, c'est la misère. Qu'est-ce que vous en pensez ? Jamais on leur a parlé de Jésus, c'est l'islam à tous les niveaux. Et si ce n'est pas l'islam, c'est la délinquance. Et si ce n'est pas la délinquance, c'est encore autre chose. Et de l'immoralité. Ils ont vraiment besoin de rencontrer le Seigneur. Amen. Et d'être en bénédiction, Philomène. Les uns pour les autres. Que le Seigneur te bénisse. Coupez-le, ce portable. Deutéronome, je peux vous le lire ? Deutéronome, chapitre 10, verset 8. Voilà, Deutéronome, chapitre 10 et le verset 8, voici ce qui nous est dit. En ce temps-là, l'Éternel sépara la tribu de Lévi et lui ordonna de porter l'arche de l'Alliance et de se tenir devant l'Éternel pour le servir et de bénir le peuple en son nom, ce qu'elle a fait jusqu'à ce jour. Dites-moi, vous ne croyez pas qu'on est aussi la tribu de Lévi ? Alléluia ! Qu'est-ce que vous en pensez, mes frères et sœurs ? Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez ? Que nous soyons cette tribu de Lévi, eh bien, qui est séparée, qui est mise à part, eh bien, pour porter du fruit et pour apporter la bénédiction, eh bien, dans un monde et au milieu du peuple de Dieu, à Dieu soit la gloire. Alléluia ! Et quand notre nature allait changer, voilà ce qui se passe. Voilà ce qui arrive, voilà ce que le Seigneur détermine dans notre vie, à lui soit la gloire, alléluia. Mais je voudrais terminer et poursuivre en lisant encore concernant l'apôtre Pierre, 1 Pierre au chapitre 5e, 1 Pierre au chapitre 5e et au verset 1er, ce qui nous est dit. 1 Pierre chapitre 5, parce qu'il nous est parlé d'être participants, 1 Pierre 5, et le verset premier, alors voilà. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous. Moi, ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée. Alors, c'est un homme qui parle avec l'appui, l'aplomb du ministère que Dieu donne, bien sûr, la force que Dieu communique eh bien, à Pierre. Il dit, mais moi j'étais témoin des souffrances de Christ, mais aussi participant de la gloire à venir. Je vous ai dit, le mot participant signifie aussi celui qui partage toutes choses. Et ici, Pierre comprend qu'il participera à la gloire à venir, c'est-à-dire que Jésus va l'introduire dans sa gloire, c'est-à-dire dans son règne où toutes choses lui sont assujetties. Et à l'heure actuelle, nous comprenons que nous sommes dans un monde où toutes choses ne sont pas assujetties encore au Seigneur. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui ou non ? Viendra un temps où tout genou fléchira devant le Seigneur. Toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Mais à l'heure actuelle, nous ne sommes pas encore dans ce monde-là. Et nous sommes plutôt dans un monde où nous constatons plutôt eh bien, les souffrances, les oppositions. Et Pierre dira, toujours dans cet épître, « Ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. » Il dit « Mais c'est quelque chose de normal. » Quand on est chrétien, quand on marche avec le Seigneur, c'est normal d'être éprouvé, c'est normal d'être incompris. Et souvenez-vous, avant de rencontrer le Seigneur, vous étiez vous aussi, eh bien dans vos péchés, vous ne compreniez rien à rien jusqu'au moment où vous avez rencontré Jésus. Alléluia. Où le Seigneur vous a changé, vous a transformé. Et Pierre dira aussi, mais là, aujourd'hui, dans ces temps que nous vivons, c'est le moment, nous dit l'Écriture, où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu ? Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur ? Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leurs âmes au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Amen. Et l'Écriture donc nous enseigne que le monde peut traverser des jugements de Dieu et qui peuvent commencer par la maison du Seigneur. Vous savez, on parle souvent de crise, on parle de crise économique, de crise sanitaire. Le mot grec « crisis » signifie, dans le langage de l'époque, des époques néo-testamentaires, eh bien, signifie « jugement ». Une crise, dans le langage de biblique, c'est un jugement. Un jugement. Dieu est capable de juger financièrement le monde. Comment se fait-il que les plus riches deviennent de plus en plus riches ? Je ne parle pas au niveau d'un pays comme la France, mais au niveau de la terre. Vous voyez ? Et que les pauvres deviennent de plus en plus pauvres. Ben, Dieu frappe. Dieu peut juger. Il est en droit de juger. Oui ou non ? Et Dieu est capable aussi de susciter des situations comme on vit aujourd'hui qui troublent. Qui peuvent troubler même le peuple de Dieu. Vous savez, dans ce qui se passe à l'heure actuelle, il me semble que les chrétiens évangéliques que nous sommes sont percutés, interrogés, par rapport à leur stabilité. Pourquoi ? Parce que nous sommes tous au courant, et nous le savons, c'est notre espérance, Jésus revient bientôt. Et on peut avoir une lecture tout azimut de tout ce qui se passe. Et je dois faire le constat que parfois nous rencontrons des bien-aimés qui aiment le Seigneur, c'est sûr, mais qui partent dans des directions complètement folles. Et je le dis avec tristesse. S'éloignant, eh bien, de ce que le Seigneur nous dit. Ne cherche pas, midi à 14h, des raisons à tout, mais souviens-toi que tu es participant de la gloire qui va être manifestée. Ce monde, on le sait, il périra, il finira dans son chaos. On le sait, l'Écriture le dit. Je me suis même rendu compte qu'à l'heure actuelle, des bien-aimés annoncent des dates, donnent un calendrier, des étapes, et parlent comme s'ils étaient bardés de diplômes, alors que, en toute humilité, il n'y a rien du tout. Soyons de celles et ceux qui restons raisonnables, participant de Christ, participant de la nature divine, participant de cette nouvelle alliance et prêts à participer à la gloire qui va être manifestée. Alléluia, amen. Et en ce qui nous concerne, c'est vraiment ce qui est important. Et vous avez remarqué dans ce texte, Pierre dira, mais je suis participant de la gloire qui est manifestée, mais avant j'étais témoin des souffrances de Christ. Et si vous lisez attentivement l'épître de Pierre, qui parle beaucoup de la souffrance qu'éprouve un chrétien, eh bien, il dit toujours ceci, avant la gloire, il y a la souffrance. Avant la victoire, il y a la croix. Et mes frères et sœurs, ce sont des temps, tandis qu'on est sur cette terre, où on se charge de la croix. C'est comme ça. J'ai besoin de mourir à moi-même. Oui ou non ? Vous aussi. J'ai besoin de mourir à mes fausses conceptions. J'ai besoin de mourir à ma chair. J'ai besoin de mourir à des comportements qui ne sont pas dignes d'un enfant du Seigneur. Et si je laisse cette chair reprendre le dessus, elle va m'égarer. J'ai besoin qu'elle soit crucifiée. Et l'Écriture nous dit même chaque jour. Et je te prie, et je vous pose cette question. Est-ce que c'est un combat ? Est-ce que c'est un effort ? Que vous menez chaque jour. Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté. Je vous rappelle que quand le Seigneur a prié comme ça, c'était jusqu'au sang. Parfois, il nous en coûte. On aimerait bien dire autre chose. On aimerait bien, je veux lui mettre les points sur les i, les barres sur les t. Tu vas voir, il va la sentir passer, celle-là. Est-ce que c'est comme ainsi que le Seigneur s'est comporté envers nous ? Si le Seigneur s'était comporté envers nous comme ça, il n'y en aura aucun dans cette salle. Hein. Mais Seigneur, là où le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé. Tu fais preuve de patience. Seigneur, la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Alléluia. Reste en paix, mon âme. Seigneur, je veux participer à la gloire qui va être manifestée. Alléluia. Et combien il est bon d'avoir en ligne de mire cette gloire à venir. Cette gloire que tu veux voir d'autres partager, tes enfants, ta famille. Mais lève les yeux, et même si tu dois te séparer de certaines choses, de certaines amitiés, même si ça te fait mal, dans l'Écriture, on voit des hommes qui ont dû se délester de certains fardeaux. Je pense à Abraham. Abraham, il a dû se séparer de Lot, il a dû se séparer d'Ismaël, il a même dû se séparer à un moment d'Isaac, pour que son cœur soit entièrement attaché à la personne du Seigneur, pour entrer dans cette gloire qui allait être manifestée. Alléluia. En apparence, il a tout perdu, mais en vérité, il a tout retrouvé. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous aide à comprendre ces choses-là et que nous ayons cette perspective bénie. La Bible nous dit, et je termine par ça, Éphésiens 2:6, que nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Pour Paul, c'est tellement fort, c'est tellement vrai, sa rencontre avec le Seigneur. Cette gloire qui va être manifestée, elle est tellement authentique que lui, il dit, nous sommes déjà assis avec Christ dans les lieux célestes, dans une position d'autorité. Ce n'est pas le monde qui triomphe, c'est nous en Jésus-Christ. Alléluia, amen. Et c'est important de le considérer. Mes frères et sœurs, je ne peux pas vous assurer, même si on se souhaite une bonne année, que cette année sera bonne. Mais je peux vous assurer une chose, c'est que le Seigneur sera bon. Alléluia, même si l'année est mauvaise. Amen. Et que nous, on a besoin d'avoir les yeux fixés sur Jésus. un homme qui passait par des souffrances terribles, qui recevait des pierres sur son corps, Étienne, vous vous souvenez ? La Bible nous dit « Je vis le ciel ouvert et le Fils de l'homme debout à la droite de la majesté divine. » Alléluia, qu'on puisse considérer ces choses. Jésus revient bientôt. Alléluia, la gloire qui va être manifestée. C'est ça, eh bien, que nous voulons. Alléluia, amen. Alors je voudrais qu'on puisse prier le Seigneur en disant « Seigneur, je veux participer. » Participer, vous savez, il y a des acteurs et il y a des spectateurs. Ben moi, je veux être acteur. Alléluia. Je veux jouer un rôle, Seigneur, dans ce que tu as prévu pour moi. Je veux entrer dans ton plan. Alléluia. On va prier le Seigneur. Seigneur, nous te rendons grâce. Et nous te prions, Seigneur, et nous te louons, Seigneur, pour ta parole, pour la paix que tu donnes, Seigneur, et l'enseignement. Mais Seigneur, mon Dieu, tu nous dis que, Seigneur, nous sommes participants, nous sommes acteurs, nous ne sommes pas spectateurs. C'est-à-dire, tu te sers de nous, tu agis en nous, au travers de nous, Seigneur. Et je veux te prier, Seigneur, pour chacune de nos vies, chacun d'entre nous, afin que, Seigneur, nous puissions, Seigneur, être renouvelés à l'aube de cette année nouvelle, par cette sève qui passe en nous, cette vie de Dieu. Alléluia. Seigneur, nous sommes, Seigneur, sans toi, nous ne pouvons rien faire, mais avec toi, nous ferons des exploits. Et Seigneur, je veux te prier, afin que nous soyons non pas des êtres excessifs qui s'agitent dans tous les sens, qui pensent à tort et à travers. Mais la seule chose que tu nous demandes, c'est de participer, d'être associé à ta personne, d'avoir cette communion avec toi. Et dès lors, dès l'instant, Seigneur, que nous avons cette joie d'être remplis du Saint-Esprit, l'œuvre se fait. Seigneur, au-delà de tout ce que nous, on peut s'agiter, de tout ce qu'on peut faire, dépenser, Seigneur, c'est toi qui agis au travers de nous. Et Seigneur, mon Dieu, nous voulons être participants de cette nature divine. Seigneur, tu vois peut-être un frère, une sœur qui est en conflit même avec lui-même, avec son caractère. Mais Seigneur, le conflit cesse lorsque toi tu règnes. Alors Seigneur, nous voulons te laisser changer notre nature, changer notre caractère. Seigneur, nous changer dans notre vie de prière. Alléluia. Nous transformer, nous renouveler, Père Céleste. Alléluia. Et puis Seigneur, nous souvenir également qu'un homme, une femme qui est participant de ta nature, c'est quelqu'un qui est en bénédiction pour les autres. Ce n'est pas un intérêt personnel qu'il recherche, mais c'est un intérêt qui vient, qui est l'intérêt du Père pour ce monde, pour son peuple. Alléluia. Seigneur, nous te rendons grâce, à toi la gloire. Tandis qu'on est sous le regard de Jésus, peut-être que pour ce premier culte de l'année, quelqu'un voudrait dire, mais moi, je veux faire des progrès avec Jésus.